Les séminaires du Collège de France.
Alors, on va commencer les présentations. Il y a 6 challenges aujourd'hui qui sont présentés. Je voudrais en profiter pour remercier... Alors, je vais mettre le premier quand même. Je voudrais en profiter pour remercier tous les challenge providers. Donc, ce sont, comme vous le verrez, des sociétés, des laboratoires de recherche, des services publics qui mettent à disposition leurs données, proposent des très beaux problèmes qui sont sur cette sur le site web. Et donc, on va commencer avec la présentation de Radium. Sila, merci. Et donc, je vais vous mettre... Voilà, vous pouvez prendre le micro et donc je vous laisse présenter le problème. Merci.
Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être là. Donc, moi, je suis Corentin, je suis chercheur en machine learning chez Radium. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un challenge qui concerne l'imagerie médicale. Du coup, pour un peu de contexte, chez Radium, on est une petite start-up et on fabrique des modèles de fondation pour l'imagerie médicale, donc pour la radiologie en particulier. Et donc, l'idée, ça va être d'entraîner un modèle sur des très larges quantités de données. Donc, c'est un modèle qui va être assez généraliste. Et on va pouvoir l'appliquer après sur énormément de différents types de pathologies ou de tâches d'anatomie avec un besoin assez réduit en annotation. Donc, par exemple, on va pouvoir détecter et annoter, enfin, prédire des zones très spécifiques de l'anatomie du cœur. Donc, ici, c'est un scanner cardiaque avec un besoin très réduit en annotation, ce qui est très coûteux d'obtenir des annotations. Voilà ce qu'on fait chez Radium. Et donc, le challenge d'aujourd'hui, c'est un challenge de segmentation d'image. Donc, pour rappeler assez brièvement ce que c'est la segmentation, on a une image en entrée. Donc là, ici, vous avez des images naturelles. Et on veut prédire une carte de segmentation. Donc, c'est-à-dire que pour chaque pixel de l'image, on veut obtenir une classe qui correspond à l'objet qui est présent sur l'image. Et donc, en médical et en radiologie en particulier, c'est une tâche qui est très utile parce que ça permet, par exemple, de mesurer l'évolution de volume dans le temps, par exemple, de cancer, pour voir si un patient va bien répondre à un certain traitement. On veut mesurer l'évolution des volumes et avoir de la segmentation automatique. C'est quelque chose qui est très utile pour les radiologues. Et donc, en général, en deep learning, une méthode assez classique pour améliorer un modèle, c'est de récolter plus de données. Et donc, une manière de faire ça, ça peut être de fusionner deux datasets ensemble et d'entraîner notre modèle sur ces deux datasets. Mais un problème qu'on rencontre souvent, c'est que les datasets sont hétérogènes, ils ne sont pas annotés de la même manière. Donc voilà, par exemple ici, à gauche, les os ne sont pas annotés, voilà, la vertèbre et les côtes ici, alors que le dataset de droite, les os sont annotés. Donc si on entraîne un modèle sur l'ensemble de ces deux datasets, le modèle va être perturbé, il va voir d'un côté que c'est du background, de l'autre côté que c'est un os, et il va être assez perturbé, il ne va pas bien fonctionner sur ces classes-là. Et donc, on propose un challenge basé sur ce problème-là. On va reproduire ce problème sur un dataset qu'on a en interne et vous devrez trouver des solutions pour entraîner un bon modèle avec des données manquantes comme ça. Donc, pour les datas, en entrée, ce sont des images 2D, donc c'est des slices de scanner. C'est des images qui sont carrées, qui sont en nuance de gris. Et dans l'entraînement, on a 2000 images. Donc il y en a 800 qui vont être partiellement annotées. Donc je vais revenir après sur ce que ça veut dire. Et 1200 qui ne sont pas du tout annotées et qui sont utilisées, par exemple, pour faire de l'apprentissage non supervisé. Et en test, on aura 500 images. Ensuite, pour les labels... Donc, comme je disais, les labels, c'est des cartes de segmentation, donc c'est aussi des matrices 2D qui sont de la même taille que les images et qui contiennent des entiers, donc 0 pour le background, 1 pour le foie, par exemple, 2 pour le côlon, etc. On va avoir une trentaine d'organes qui sont annotés. Et donc, on va avoir 800 images qui sont partiellement annotées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, on voit qu'il manque un des deux poumons, il n'est pas annoté. Et sur une autre image, on va avoir un os qui manque et un muscle qui manque. Et donc, ça va être aléatoire sur chaque image. Certains organes vont manquer, ce qui va perturber l'apprentissage de modèles de segmentation. Et on a aussi 1200 images avec aucun masque de segmentation. Et donc, à vous de trouver les meilleures manières d'utiliser ces images. Et on vous donne aussi des informations supplémentaires sur ces masques de segmentation. On va vous indiquer, pour chaque image, quels sont les organes qui ont été annotés pour cette image. Donc, en gros, pour chaque image, vous aurez une liste de classes. Donc ici, c'est cette liste-là. Et en gros, ça représente donc quels organes sont annotés, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont présents dans l'image. Ils peuvent être soit présents, soit absents dans l'image. Donc, s'ils sont présents, vous aurez un masque ici comme le label 1. Mais par exemple, pour la classe 10, l'organe 10 n'est pas présent dans l'image, donc vous serez sûr qu'il sera absent de l'image. Et par contre, si certaines classes ne sont pas présentes dans cette liste, comme la classe par exemple 3 et 5, ben vous serez pas, vous n'aurez aucune idée de si l'organe est présent ou absent dans l'image. C'est quelque chose qui va être incertain. Donc vous pouvez utiliser ça pour par exemple calculer vos métriques si vous créez un set de validation basé sur le train set, ou alors améliorer vos loss functions pour ne pas prendre en compte voilà, certains labels qui seraient manquants. Pour la métrique, c'est le die score qu'on utilise. Donc c'est une métrique classique en segmentation d'objets. Ça mesure l'overlap entre la prédiction et la ground truth. Et donc c'est une métrique qui varie entre 0 et 1. Et ensuite, on va faire la moyenne sur toutes les images du dataset pour chaque organe, et ensuite la moyenne sur tous les organes pour avoir la métrique finale. Donc voilà pour la métrique. Voilà quelques idées potentielles de direction de recherche. Ça peut être justement d'améliorer la fonction de loss, de prendre en compte les classes qui vont être manquantes pour chaque image pour ne pas perturber l'apprentissage du réseau. Ça peut aussi être de faire de la pseudo-annotation, par exemple, ou d'utiliser des méthodes de type segment anything qui vont être promptées par des classes. Voilà, c'est quelques idées, mais il y a beaucoup de possibilités pour ce challenge, donc on vous laisse explorer ça. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bah, merci beaucoup pour ce très beau challenge. J'ai oublié de le mentionner parce que là, on était un peu précipité. Tous ces challenges ont été mis en place, bêta-testés, etc., par l'Institut Louis Bachelier, en particulier par Enzo Dalbi, qui sera là la semaine prochaine, mais qui a eu un problème de train. Donc, je vais quand même remercier pour le superbe travail qu'il a fait pour la mise en place de tous ces challenges. Et on va, et il vous fera une présentation dans la seconde présentation la semaine prochaine. On va passer au deuxième challenge, donc qui nous est proposé par Valeo.
Bonjour à tous. Donc je suis Benoît Verger, je travaille pour le groupe Valeo. Alors pour vous présenter rapidement le groupe, donc c'est un équipementier automobile qui travaille donc à travers le monde et dont l'organisation est la suivante. Nous avons donc trois principales divisions. La première, la division Power, à laquelle on appartient avec mes collègues, qui s'occupe de toute les produits qui concernent l'électrification des véhicules, mais aussi toute la gestion thermique des véhicules. Une deuxième branche, Brain, qui s'occupe de tout ce qui va être l'assistance à la conduite, donc les systèmes d'assistance eux-mêmes, mais aussi les capteurs qui y sont nécessaires. Et puis la dernière branche, qu'on appelle Light, qui s'occupe de toute la partie visibilité, que ce soit les projecteurs ou les systèmes d'essuyage, par exemple. Donc voilà, nous appartenons avec mes deux collègues, donc Ashraf Taibi et Ahmed et à Jayash qui sont présents aujourd'hui, à une équipe digitalisation qui s'occupe donc d'améliorer la performance industrielle des sites de la division Power à travers l'utilisation de la data en général. Pour le challenge qu'on vous présente aujourd'hui, donc les années précédentes, on a déjà présenté des challenges, donc dont un qui était un petit peu basé sur la même chose, c'est-à-dire le computer vision. On a énormément de systèmes d'inspection automatique sur nos lignes de production, donc on appelle AOI pour Automated Optical Inspection. Donc vous avez ici une machine de ce type, donc qui vient inspecter. Donc on a une caméra à l'intérieur, des algorithmes traditionnels qui vont venir inspecter les images pour juger si la pièce est bonne ou non par rapport à nos critères. Le petit schéma en bas à droite représente le processus, donc la pièce rentre dans cette AOI. Si l'ensemble des tests passe OK, la pièce va continuer dans le flux de production. Si jamais un des tests sort mauvais, la pièce est écartée du flux principal, va dans une station dite de réparation où un opérateur va revoir cette image pour la rejuger et dire si oui ou non elle est bonne. S'il la juge bonne, elle va réintégrer le flux de production normal. S'il confirme le défaut, la pièce va être rejetée de la ligne. Pour aider les opérateurs, parce que parfois c'est des tâches qui sont assez prenantes et donc qui leur prennent du temps aussi sur les autres tâches qu'ils ont à accomplir sur la ligne, on a commencé à mettre en place des systèmes donc de computer vision, des modèles qui permettent, pour en tout cas certains types de défauts, de refaire cette annotation à la place de l'opérateur. Donc ça, c'est une première chose qui tourne déjà sur certains sites de production. La problématique que nous avons en plus de ça, c'est que quand on fait un entraînement d'un modèle, il y a un certain nombre d'images qui ne sont pas forcément disponibles. Donc voilà, les défauts qui sont rares ou des problèmes sur certaines pièces, voilà des choses qu'on n'a pas dans le dataset d'origine. Et la grosse question qu'on se pose au niveau de qualité, c'est comment vont réagir les modèles dans un cas comme ça. Est-ce qu'ils vont vraiment bien juger cette pièce? Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir une pièce mauvaise qui soit jugée bonne par le modèle? Donc la question qu'on a aujourd'hui dans ce challenge, c'est surtout d'être capable, en plus de la classification des images, de détecter les images qui sont anormales et qui n'étaient pas présentes dans l'entraînement d'origine. Le dataset, donc... Le dataset qu'on vous propose pour l'entraînement, donc il comporte un peu plus de 8000 images qui sont annotées, réparties en 6 classes, une classe de pièces bonnes, et puis ensuite 5 classes de différents défauts. Vous voyez que ces classes sont assez disparates en termes de quantité d'images, donc c'est une première difficulté. Et puis ensuite, donc dans le dataset de test, qui contient un petit peu plus de 1000 images, cette fois-ci elle est divisée donc en 7 classes, les mêmes classes que dans le training. Vous avez une classe pour les pièces bonnes, les 5 classes de défauts, et puis une dernière classe qu'on a appelée drift, qui va inclure donc un certain nombre d'images qui en fait sont des défauts qui sont assez rares ou des défauts de prise de vue, de choses comme ça. Et donc c'est cette classe qu'il est important de détecter. Au niveau des inputs, pour compléter un petit peu, donc vous avez ici une vue du produit. Il est composé donc principalement de 4 composants qu'on va venir inspecter, hein, donc qui sont nommés DAI 1, 2, 3, 4. Sur chacun de ces composants, on a 2 rubans, donc c'est des rubans d'aluminium qui sont soudés. Chacun de ces rubans donc a un repère qui sont appelés soit 2003, soit 2005. Je précise que le ruban qui est inspecté et qui est donc l'objet de la prédiction doit toujours être celui qui est au centre de l'image. Il ne faut pas se laisser influencer par l'éventuel défaut ou l'état en tout cas du ruban qui est à côté. Lui, il est l'objet d'une autre image du dataset. Au niveau des outputs, donc ce qu'on veut récupérer, donc c'est donc le label, hein, donc soit vous avez une pièce bonne, soit une pièce avec un des différents défauts, ou alors vous identifiez justement un drift, donc une anomalie sur l'image qui n'était pas dans le dataset d'origine. Concernant la métrique, donc on va utiliser une mesure donc de la précision de la prédiction, et on va pénaliser en fait toutes les erreurs en utilisant cette matrice de poids. Donc vous voyez qu'on pénalise très fortement ce qu'on appelle les faux positifs, donc en considérant pour nous que le positif c'est une pièce bonne. Donc c'est-à-dire que toute pièce défectueuse que vous allez détecter en tant que positif sera très fortement pénalisée, forcément. Pour nous c'est le pire des cas, hein, c'est-à-dire qu'on va potentiellement envoyer une pièce mauvaise à notre client. Et par contre, deuxièmement, on va aussi fortement pénaliser, pour le cadre du challenge, la non-détection d'un drift. Les autres types d'erreurs sont moins fortement pénalisés. Juste quelques informations par rapport au benchmark. Donc voilà ce qu'on a commencé à faire pour ce challenge, donc qui peut être repris, ou vous pouvez éventuellement trouver d'autres solutions, le modifier. Donc simplement, comme les images ont des orientations toutes différentes, les premières étapes, c'est simplement de toutes les redresser pour les mettre avec le même angle, et ensuite, pour éviter d'être influencé par les anomalies qui seraient sur le ruban adjacent, de cropper l'image pour se concentrer uniquement sur la zone d'intérêt. Et puis ensuite, on a aujourd'hui, voilà, le benchmark est fait comme ça. On a d'un côté un algorithme de détection d'anomalies, donc on n'utilisait pas DIM pour l'essai, et puis d'un autre côté un classifieur donc basé sur un ResNet 50, et ensuite on a un petit script qui vient combiner les résultats de ces deux modèles pour nous sortir la classe finale. Voilà, donc merci pour votre attention, et si vous avez des questions maintenant ou plus tard, vous pouvez me contacter, moi ou mes collègues, aux adresses mail qui sont affichées.
Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer au troisième challenge, donc qui nous est proposé par Bertin Technologies.
Merci Stéphane. Donc, je vais vous présenter. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un challenge sur la détection de gaz toxiques. Alors là, il n'y aura pas d'image, donc c'est un petit peu plus compliqué d'une certaine façon, parce qu'il va falloir comprendre ce qu'il y a dans les données. Il faudra peut-être les visualiser, ça peut être utile. Donc c'est proposé, comme disait Stéphane, par Bertin Technologies. C'est tout simplement, on est une entreprise de technologie de pointe, j'ai mis avancé, pour la protection globalement des populations, des nations et de l'environnement. Donc là, on parle de détection de gaz toxiques, mais on a aussi, on travaille dans la sûreté nucléaire avec beaucoup de dispositifs de mesure de radioactivité. On a dans le spatial ou dans l'optique des choses sur Mars, par exemple. Et puis aussi, on travaille dans le domaine de la biologie, de la recherche avec des bioréagents. Voilà, et pour donner une idée de la taille, hein, c'est à peu près 1000 collaborateurs. Alors, donc le but du challenge, c'est de protéger des gaz toxiques. Et comment ? Donc c'est avec un détecteur. On a ce détecteur qui a un certain nombre de capteurs. Ça peut être dans des conflits armés, parce qu'il y a des gaz de combat hein, qui sont encore utilisés. Malheureusement, il y a des sites industriels ou pas. Hein, ça peut être des bateaux, etc. Donc le but du challenge, c'est de façon ultime d'identifier déjà l'agent, enfin le gaz hein, toxique, ça peut être du sarin, du VX, etc. Mais aussi la classe de gaz, il y a des agents innervants hein, qui attaquent les nerfs, il y a des agents irritants, les poumons, etc., enfin les voies respiratoires. Et dans tous les cas, l'idée c'est de générer une alarme sur à la fois le gaz, dire attention, il y a du sarin, et sur le type de gaz. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir un gaz qu'on ne connaît pas, mais qui est un agent innervant, par exemple. Voilà. Alors, plus précisément, là, j'entre un petit peu dans les détails, parce qu'il y a une petite subtilité. Donc, ce qu'il faut prédire, c'est 23 classes différentes. D'accord ? Et ces 23 classes, alors elles sont obfusquées, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est un mot français, mais enfin, ça veut dire qu'on peut, il n'y a pas écrit sarin, VX, etc., pour compliquer un petit peu les choses, et puis pour permettre aussi aux gens qui ne sont pas spécialistes peut-être de rentrer plus facilement dans la compétition. Donc ce niveau d'alarme, ça va être 0 où il n'y a pas d'alarme, à 1 où il y a une alarme, sur 23 valeurs, pour un échantillon de mesures données. Et donc ces classes, c'est il y en a qui vont dire, là il y a du VX, de ce gaz VX, et puis ça c'est un agent irritant, ça c'est un agent... innervant, etc. Donc la métrique est assez simple, hein, c'est à peu près une moyenne quadratique, mais elle est pérée un petit peu, parce que l'idée c'est qu'on veut éviter deux choses, c'est que le petit dispositif, là, le petit capteur sonne toujours, parce que si on dit « ah, il y a du gaz », au bout d'un certain temps on l'éteint, donc il faut éviter ça, donc on ne veut pas de fausses alertes, mais on ne veut pas non plus de faux négatifs, c'est-à-dire de moments où le dispositif dit tout va bien et puis en fait il y a un gaz toxique parce qu'il y en a qui sont inodores notamment, donc c'est embêtant, il y en a même qui sentent bon, etc. Voilà, donc en pratique j'ai mis un petit facteur de pondération là, que j'ai appelé F, c'est écrit en tout petit mais c'est pas, on n'a pas besoin de lire, qui donne juste un peu plus d'importance quand il y a une alarme, d'accord, juste parce qu'il y a moins de moments où il y a une alarme, c'est juste ça. Donc au total on donne la même importance au moment où il n'y a pas d'alarme et au moment où il y a d'alarme, même si ça implique un petit facteur pour qu'il y en ait autant de moments dans les deux classes. Alors, les données d'entrée, juste pour les fixer, ça c'est quelque chose qui n'est pas complètement explicité dans le challenge écrit, mais donc vous avez c'est l'intérêt de venir ici. On a 8 capteurs principaux, hein, juste pour donner une idée, on aspire l'air ambiant en fait, et puis on casse les molécules, certaines molécules en ions, et ils vont, avec un champ électrique, passer à un endroit ou à un autre. S'ils sont gros, ils ne vont pas aller très loin, et s'ils sont plus petits, ils vont aller loin. Donc on fait ça s'appelle la spectroscopie de mobilité ionique. Et le truc intéressant, c'est qu'il y a des valeurs dans les entrées, qui s'appellent M4 à M7, et puis M12 à M15, qui correspondent à ces petites électrodes en fait, qu'on voit ici. D'accord ? Donc il se peut que M4 bave un peu sur M5, par exemple. Donc ça peut donner des idées sur la façon de combiner les données de ces différents cas, de ces 8 capteurs. On a aussi 4 capteurs en plus, et puis une mesure d'humidité, parce que l'eau, elle nous embête beaucoup. Plus il y a d'eau, et plus il y a d'ions qui viennent de l'eau, en fait, et qui vont donner des signaux en plus, qui se mélangent aux autres. Donc l'humidité est importante. Voilà, et pour finir, quelques points sur les difficultés. Donc, par exemple, le VX est un agent innervant. Donc, en vrai, il va y avoir deux valeurs identiques, au moins deux, un peu plus, dans les classes, qui est le niveau d'alarme, qui veut dire, attention, il y a du VX, alarme à 90%, et il y a un agent innervant, alarme à 90%. Donc, dans les données, ça va ensemble. Dès qu'il y a du VX, il y a l'alarme agent innervant aussi. Mais en général, c'est pas le cas. Donc, il va falloir réussir à avoir un algorithme qui sait généraliser les agents innervants, VX aussi, mais sachant que voilà, c'est pas parce qu'il y a innervant que c'est forcément l'agent VX, même si dans les données, c'est peut-être un peu toujours comme ça. Voilà. Enfin, c'est un exemple, faudra vérifier. Donc, il y a comment bien généraliser. Et d'autre part, dans les données, et ça, c'est pas non plus écrit, mais ce sera l'avantage d'être venu ici à nouveau, ou de regarder la vidéo, j'ai pris des plages différentes d'humidité, parce que l'humidité a un impact très grand, entre les données d'entraînement et les données de test. Donc, par exemple, on peut avoir des humidités basses et moyennes dans les données d'entraînement, et puis dans les données de test, il va falloir extrapoler en humidité. Mais pour d'autres gaz, j'ai pris les humidités basses et hautes. Et il va falloir interpoler aux humidités moyennes et reconnaître donc les gaz et le type de gaz. Voilà. Et donc, peut-être que c'est bien de voir comment le modèle se comporte dans ces deux cas, par exemple. Peut-être faire deux modèles, un modèle qui extrapole, un modèle qui interpole. À voir. Voilà, voilà. Merci à tous.
Alors, je voudrais en profiter pour remercier beaucoup Éric Le Bigot, qui en fait nous a donné un très grand nombre de challenges, avant en finance, et puis là, ce très beau challenge. Donc, merci beaucoup pour tes challenges. On va passer au challenge qui nous est proposé par la société SLB.
Okay, so our presentation will be in English. There's both of us, so I'm Iman Bahou, and this is Ayram Guy, my colleague. We both come from SLB, which is a global technology. So today we'll be presenting the challenge of ECOSEM. So it's the third interface echo segmentation for cement quality assessment, which is an image segmentation task. So we both come from SLB, which is a global technology company in the oil and gas industry. Unfortunately, the video does not have sound, but mainly what the video wants to say is that we're not only focusing on the innovation in the oil and gas industry, but also trying to accelerate the transition to the low energy or low carbon energies, and as well as leading in science and the digital part. So I don't know if it's relevant to see the video without the sound. Okay, so probably we'll be moving on to the team we come from. So in SLB, we have what we call the AI Lab, which is an R&D team. We are mostly data scientists with 50% of PhDs and 50% of master's degree people. Also, we have quite of an imbalance in terms of gender. So 50% of us are female, the others are male. And we're quite which is the reason, by the way, I'm talking English mainly, because we have many nationalities, so we're mainly speaking in English in the team. We have three sub-teams, so time series, computer vision, NLP. And not only we are working for the company, but the research part also comes from collaboration with universities, industries, and startups. So here is a bit of pictures of everyone in the team. And now we'll be moving on probably to the challenge and the context with AIR.
Thank you, Iman. Now let's move to the context of the challenge. So one of the main activities of SLB is the preparation and the analysis of oil and gas wells. And one of the important steps is the well integrity. So here, the well integrity is the study of the quality and the condition of a well. So a well is generally formed as a hole in the surface, and then we insert pipes, or which we called also casing. And then we fix this pipe with the cement. And one important step is to study the quality of these two elements, which are the casing and the cement, since during the time, many natural conditions can be changed, such as temperature, pressure, or even the surface can move. And this can cause corrosion, deformation, or also moving of the cement from its place. So this is why it's important to detect it in an early stage in order to prevent that. SLB has many tools, and one of them is using the ultrasonic measurement, which here using the isolation scanner with the pulse echo measurement. So mainly this is the representation of a well. So here we have the casing and the formation, and between it we have the cement. And while the acquisition, so the tool will send signals throughout the wall, and then the reflection of the signals will be received from the receivers. Here we have two, but mainly we choose one of them. And then the main shape and the format of the signals will be in this format. We have two peaks in the signals. The first one is coming from the reflection from the casing, and the second one is coming from the boundary between the cement and the formation, and which we called the third interface echo or the tag. And so the tool is moving forward in the well, and then we will have different acquisition per different depths. And if we stack all these signals per depth, so we will form a 2D image, which is here. And also the tool is rotating, so we will have different measurements for different angles or azimuth. And as a summary, so one image will be representing as for one azimuth and for all the depths. So the vertical axis will be the depths, and the horizontal will be the transformation of time. So if we stack all these images together, we will have a 3D cylinder, and this is a view of it. And if we also see the horizontal view, so we will have this shape. So the inner circle will be representing the casing, and the outer one is representing the tie. Sometimes these circles will be touching, or sometimes they are deformated. So the main objective of this challenge is to evaluate the quality of the cement, to test if the casing is centralized or not, and detect if there is any collapse between the casing or formation. And by doing this, we need to detect the casing and the tie in these images. So here, our task is a multi-classification segmentation. And since we have very long images, so we will be splitting it into patches. And then this is the data that we have for the challenge. So this is the images, and our objective here, is to detect the casing and also the tie, and the labels in this task will be in this format. So the 0 is for background, the 1 is for the tie, and the 2 is for casing. And now let Iman discuss the difficulties.
So as Ayaz mentioned, it's an image segmentation task, a multi-class image segmentation, but we have many challenges. So first and foremost, boreholes are very big, which means that they are very long, and they cannot necessarily fit into any GPU, so hence the patch creation. Also, one of the main importance that we have is in the tie, which is a physical, let's say, aspect, which is the continuity, not only in the depth and the azimuth, but the problem is when we have very, let's say, constraints on the GPUs, we cannot necessarily hold this continuity, so that's another challenge. And the class imbalance, as you can clearly see, we have much background and not necessarily a lot of tie, nor the casing. The casing you can see is just a line, but the tie is much more difficult to detect. And also, concerning the frequency of, let's say, captioning the data, sometimes we have 160 points of data when we're talking about the azimuth, or we have 272, which makes it more challenging because we have different size. So that's, all of these things should probably be taken into account in your models or in your approaches. So let's talk about the metric that we chose. We chose the intersection over union, a very popular one in the image segmentation realm. So measuring the overlap over the union, especially here. And in specifically in our baseline, we have done the mean between the three IUs for the three classes that we have. And talking a bit about the baseline that we've done, it's basically a very basic one. It's an encoder-decoder with two levels. When we have a batch size of 64 and a learning rate of 0.0001. The loss is cross entropy, and the optimizer is Adam. So we have given you this baseline, so you can see that the score that we have is 0.43 as an IOU. Maybe you can start on that or completely have another approach. And thank you very much, and we're happy to take any questions.
Thanks again. Merci beaucoup pour ce superbe challenge à nouveau. Le challenge suivant va nous être présenté par QRT en collaboration avec Gustave Roussy. Donc c'est un challenge de médical et donc il sera présenté par Vicen Braham et Elsa Bernard.
Alors bonjour à tous. Alors merci de nous recevoir aujourd'hui au Collège de France. Donc je m'appelle Wissem Braham, je suis chercheur quantitatif chez QRT. Et aujourd'hui on va vous présenter notre Data Challenge 2025. Donc ce Data Challenge a été fait en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy. Donc je vous présente aussi Elsa Bernard qui est PhD et aussi directrice de laboratoire à l'Institut Gustave Roussy. Alors d'abord juste un petit mot sur QRT, qui nous sommes et ce que nous faisons si vous ne nous connaissez pas. QRT est un fonds d'investissement quantitatif. Donc notre rôle est d'essayer de prédire les mouvements futurs sur les marchés financiers, sur n'importe quel type d'instrument financier, de délivrer les performances les plus hautes possibles tout en étant décorrélé du marché. Donc il y a une crise ou une croissance, on est censé délivrer les meilleures performances possibles. Donc pour faire ça, on a une approche quantitative, dite systématique. Nous observons les données historiques, nous construisons nos modèles, tirons des métriques statistiques et en fonction de ces métriques-là, nous tirons nos décisions de trading. Donc, nous avons des bureaux partout en Europe et en Asie-Pacifique. Vous pouvez voir une liste de villes où nous sommes présents. Et nous investissons dans toute classe d'actifs, donc equity, marché actions, commodities, crypto, etc. Et une des particularités chez QRT, c'est qu'un des piliers, c'est la collaboration. Donc, on a beaucoup de personnes qui proviennent du milieu académique, beaucoup de PhD, d'anciens maîtres de conférences, et beaucoup de personnes qui proviennent du milieu de la finance. Et c'est la synergie de ces deux mondes-là qui permet en partie à QRT d'être le fonds d'investissement qu'il est aujourd'hui. Alors maintenant, je vais laisser Elsa introduire l'Institut Gustave Roussy. Donc, la Fondation QRT finance en partie l'Institut Gustave Roussy. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons choisi de faire un Data Challenge ensemble.
Merci beaucoup, Wissem. Bonjour à tous. Donc, en effet, c'est un challenge co-organisé par QRT et Gustave Roussy. Donc, je remercie vivement QRT ainsi que tous les organisateurs du challenge. Gustave Roussy, en quelques mots, c'est le premier centre anticancéreux en Europe. 13 000 nouveaux patients par an. Et donc 50 000 patients pris en charge au total en une année, à travers tout type de pathologie, que ce soit cancer solide ou cancer liquide, cancer de l'adulte ou cancer pédiatrique. 3 000 employés, dont plus de 1 000 chercheurs. Donc en ce qui concerne ce Data Challenge, les sciences de la donnée vraiment constituent aujourd'hui un pilier fondamental de ce qu'on appelle l'oncologie de précision, c'est-à-dire la médecine personnalisée, adapté à chaque patient, aux caractéristiques cliniques et aux caractéristiques moléculaires de chaque patient. Les data science, c'est en partie le développement de modèles prognostiques qui nous permettent d'anticiper le développement, l'évolution de la maladie, le développement de modèles prédictifs qui nous permettent donc d'anticiper la réponse au traitement pour orienter au mieux les stratégies thérapeutiques. Donc on va vous décrire le challenge. Si vous avez des questions sur le challenge ou plus globalement sur les missions de Gustave Roussy, je suis accompagnée aujourd'hui du docteur Julien Vibert, qui est oncologue au département des 7 phases 1 de Gustave Roussy, avec une double casquette de data scientist après une thèse de machine learning. Et donc moi-même, Elsa Bernard, je dirige une équipe d'oncologie computationnelle à Gustave Roussy. Donc le challenge, ce challenge proposé consiste à prédire le risque d'une maladie qui a un type de cancer du sang qu'on appelle des leucémies myéloïdes. Ces leucémies myéloïdes sont dues à des mutations dans des cellules souches hématopoïétiques, ce qui entraîne un déficit de production de cellules sanguines qui sont importantes évidemment pour le fonctionnement et qui peuvent conduire à la prolifération de cellules myéloïdes immatures et donc une phase aiguë de la maladie. Donc le but du challenge est de prédire le risque de la maladie. Un proxy pour ce risque de la maladie, c'est d'utiliser les données de survie observées chez des patients, chez une cohorte de patients qui ont été atteints de leucémie myéloïde. Pourquoi ce challenge est important ? Être capable d'estimer avec précision le risque des leucémies myéloïdes est primordial pour orienter au mieux le management clinique, la stratégie thérapeutique. Parce qu'en effet, il y a un continuum de risques. Certains patients ont une maladie plutôt de bas risque, d'autres de haut risque, et ça change les stratégies. Donc, le but du traitement pour les maladies de bas risque est plutôt d'améliorer la qualité de vie, en particulier en améliorant la formule sanguine, tandis que pour les patients à haut risque de progression, d'évolution de la maladie, le but du traitement est d'améliorer la survie, en particulier avec des stratégies de traitement intensives qui incluent la transplantation de moelle par un donneur, donc la transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, pour répondre à ce challenge, ce que vous aurez à faire, c'est d'utiliser des données cliniques et moléculaires issues de du séquençage des cellules tumorales des patients, entre autres. Donc, ces données peuvent correspondre à des données de la formule sanguine, des données cliniques, des données morphologiques, donc la présence et la proportion des cellules immatures dans la moelle épinière, des données moléculaires qui correspondent au karyotype, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réarrangements chromosomiques, des problèmes avec les chromosomes observés dans les cellules tumorales, et des données moléculaires qui correspondent à des mutations sur l'ADN qu'on a séquencé des cellules tumorales de ces patients. Vous devez assembler l'ensemble de ces données pour prédire le risque de la maladie. Merci.
Je passe la main. Merci. Alors, juste pour imaginer un peu plus les données, donc voici à quoi vous ressemblez. Donc, les données proviennent de l'Institut Gustave Roussy. Donc, il faut savoir que elles viennent de plus de 24 centres cliniques. Donc, c'est des données médicales réelles, donc de patients, qui ont bien sûr été anonymisées. Elles sont divisées en deux parties, données cliniques et données moléculaires. On a plus de 3000 patients dans le jeu d'entraînement et plus de 1000 patients dans le dataset test. Donc, toutes les données sont reliées par un unique identifiant, donc l'ID, qui correspond à un patient. Donc, pour ce qui est des données cliniques, sans trop s'attarder, il faut juste voir que Cytogenetics est mis de manière assez brute. En fait, on vous a pas mis beaucoup de features, mais elles sont vraiment très denses en informations, très riches en informations. Donc, je vous invite vraiment à regarder la description, à comprendre ce qu'elle signifie et à réfléchir à comment pouvoir les synthétiser pour pouvoir les donner à un algorithme d'apprentissage. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que il y aura une certaine manière de la traiter. Dans la description, on vous donne les liens qui vous permettent de comprendre vraiment la nomenclature et la description qui est derrière. Donc, pour ce qui est des mutations, en fait, pour un patient, il peut y avoir plusieurs mutations. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ici, une mutation va être décrite par là où elle se trouve sur le génome humain, l'impact, donc le changement qui est décrit, à la fois d'une classification assez large, mais aussi vraiment précise, et la proportion de présence de cette mutation chez le patient concerné. Donc, pour ce qui est de la target et de la métrique, donc en fait, on essaye de prédire un risque. Donc, c'est une grandeur. Peu va importer vraiment l'échelle de cette grandeur. Ce qui va vraiment importer, ça va être l'ordre dans lequel vous allez prédire cette grandeur. Si vous prédisez un risque faible, c'est que vous pensez que le patient va survivre longtemps. Si le risque est important, c'est qu'il va probablement ne pas survivre longtemps. Donc, pour la métrique, on a choisi la concordance index. Donc, ça va être toutes les paires qui vont être, les paires de patients qui vont être correctement ordonnées, divisées par le nombre de paires totales. Alors, les paires doivent être bien sûr comparables, puisque, en fait, on vous donne deux outcomes, OS years et OS status. OS years, c'est la durée entre le diagnostic du patient, donc le diagnostic du cancer chez le patient, et soit le dernier follow-up, ou le décès du patient. Donc, cette dernière information, elle est dans OS status. Donc, pour certains patients, on n'a que le temps de survie partiel, et pour certains patients, on a le temps de survie global. D'où ce qu'on appelle cette censure et ce concept de paire comparable. Puisque pour un patient 1 qui a survécu jusqu'à un temps T1 et un patient 2 qui a décédé à un temps T2, si T2 est plus grand que T1, on ne peut pas déterminer si le patient 1 a survécu plus longtemps ou moins longtemps que le patient numéro 2. Alors, on a juste modifié un tout petit peu la loss. Vous inquiétez pas, la formule est fait un peu peur. Mais vraiment, ce qui va importer, c'est l'ordre. C'est l'ordre dans lequel vous allez prédire ce risque. Alors, pour faire ça, on vous donne aussi deux benchmarks. Alors, le premier benchmark est vraiment très simple. C'est un LightGBM qui est entraîné avec les trois features des données cliniques. Il prend pas du tout en compte les données, le fait que les données sont censurées. On essaye juste de prédire le temps de survie. Donc, comme dit précédemment, le temps de survie et le risque, c'est deux grandeurs qui sont inversement proportionnelles. Donc, si on essaye de prédire le temps de survie, ben, on va juste mettre un moins devant et les données seront ordonnées comme on le souhaite. Localement, on a un C-index de 0,65. Donc c'est un benchmark assez simple. Alors le second benchmark, je peux laisser Elsa le présenter.
Donc le second benchmark, c'est un modèle adapté aux données de survie, donc c'est-à-dire aux données censurées, qui s'appelle un modèle de Cox. Le modèle de Cox, c'est un modèle semi-paramétrique, pardon, avec une composante dépendante en temps qu'on appelle la baseline et une composante indépendante du temps dans laquelle les covariables explicatives sont incorporées. Donc dans ce benchmark, les features utilisées dans ce modèle de Cox étaient assez simples. Et donc vous voyez, le score de CoCondex de 65 n'est pas extraordinaire, il est possible de faire mieux. Les variables utilisées étaient donc certaines des données cliniques et une simplification des données moléculaires en un feature qui est le nombre de mutations sur les gènes qui sont responsables de la maladie par patient, qui est un feature intéressant mais encore incomplet pour correctement décrire le profil moléculaire des patients. Donc ça correspond à ce second benchmark, un modèle adapté à la survie avec des features à la fois cliniques et moléculaires.
Merci. Donc vous avez les données, vous avez les benchmarks. Merci beaucoup et bon courage.
Merci beaucoup. Alors, c'est assez rare d'avoir des challenges médicaux sur des vraies données, mais en plus, une collaboration entre un fonds d'investissement et un hôpital, c'est aussi très rare. Donc, merci pour ce très bel exemple de collaboration.
Merci.
Donc, on va passer, merci encore, à la dernière présentation qui est faite à nouveau dans le cadre d'une collaboration entre Aegis et Datacraft, et qui va nous être présenté par Raphaël Viennet et Raphaël Bézot.
Merci. Et Daniel Rebaud, effectivement, on vient en force. Bonjour à tous. Ah, je vois qu'il y a une image qui a sauté, c'est dommage. Non, oui, c'est bien ça, mais en fait, effectivement, on a une petite image de fond. Bon, c'était pour vous illustrer le challenge de ce jour sur la prédiction de la fraude au stationnement. Donc c'était une image qui montrait en fait un véhicule de contrôle du stationnement, et la question que j'allais vous poser, c'est: est-ce que vous avez déjà vu ce type de véhicule? J'imagine que oui, circuler les au moins dans les rues de Paris. Voilà. Donc on est ravis de pouvoir vous présenter ce challenge aujourd'hui. Donc je suis accompagné de Raphaël de Datacraft et Raphaël Bézot de la direction digitale, et moi-même je m'occupe d'une équipe Data Lab au sein d'Aegis. Alors quelques mots sur Aegis et sur Datacraft. Donc Aegis, nous sommes un acteur international de l'architecture, du conseil et de l'ingénierie de la construction, ainsi que des services à la mobilité, dont le contrôle du stationnement fait partie. Nous sommes en fait la première société d'ingénierie française, mais peu connue du public, alors que nous réalisons près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, même plus de 2 milliards d'euros à fin 2024. Nous faisons 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, 20 000 collaborateurs dans le monde, et on intervient sur nos domaines d'activité, donc sur le rail, le bâtiment, la route, l'énergie et l'eau. Voilà, concernant Aegis, je laisse la parole à Raphaël.
Merci Daniel. Rapidement, pour vous présenter Datacraft, on est une start-up qui gère un club de data science dont Aegis est membre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est réunis autour de ce challenge. Concrètement, on a 45 membres en France, principalement à Paris. On fait qui sont assez variés, de l'administration publique comme la Marine ou l'URSSAF, des grandes boîtes françaises comme le Crédit Agricole, le groupe Bouygues ou le groupe Aegis. Des startups qui sont aussi nombreuses, et on rassemble ces entreprises avec plus de 600 chercheurs et freelances qui ont accès au club gratuitement. Voilà, concrètement, ce qu'on organise pour rassembler tout cet écosystème, c'est des événements toutes les semaines autour du machine learning, de l'IA, la data, orientés très pratiques, qui se divisent en trois catégories, grosso modo: des talks, des workshops et des hackathons. Je vais laisser du coup la suite à Daniel.
Si on n'a pas eu la photo tout à l'heure, on aura peut-être la vidéo, oui. Donc pour vous présenter en quelques mots l'activité de contrôle du stationnement, en quoi ça consiste, hein, même si vous avez une idée. Donc Aegis en fait contribue à l'exploitation d'une vingtaine de villes en France et à l'international sur le contrôle où on réalise le contrôle du stationnement. Une ville pionnière qui était la ville d'Amsterdam, dans laquelle on a travaillé il y a quelques années, a un moment où les villes ont commencé à mettre en œuvre des politiques de stationnement et des moyens en fait technologiques modernes pour pouvoir contrôler le stationnement. Donc, à titre d'exemple, Paris, avant la mise en œuvre du contrôle de stationnement automatisé en 2018, il y avait environ 10% de taux de paiement spontané. En 2024, 85% de taux de paiement spontané. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez et que vous vous garez dans Paris, généralement, il y a 85% de personnes, en tout cas, qui aujourd'hui payent leur stationnement. Donc, l'objectif, c'est clairement de décongestionner les centres-villes. C'est aussi pour les villes une manne de financement qui est non négligeable. Donc, les moyens technologiques qu'on met en œuvre, c'est des véhicules qui patrouillent les centres-villes. On a également qui lisent les plaques d'immatriculation, donc lecture automatisée de plaques d'immatriculation. On prend des images de contexte qui permettent ensuite de vérifier que les droits de stationnement ont bien été payés. En back-office, on peut contrôler et éventuellement dépêcher un agent sur place qui peut, à l'aide d'un PDA, s'assurer qu'il y a pas, qu'il y a bien un véhicule, qu'il y a bien des droits de stationnement, qu'il y a pas de déchargement, chargement en cours. Voilà. Donc un certain nombre de règles qui sont contrôlées par l'agent sur place, sachant que les voitures, les bus, les motos sont également contrôlées. Voilà. Donc, dans les solutions que l'on déploie, on retrouve ces technologies embarquées dans les véhicules, dans les PDA, et les solutions digitalisées pour pouvoir contrôler le stationnement. Le volume de données que l'on produit est considérable, et donc on est certain, au travers du challenge qu'on vous propose aujourd'hui, on est certain de pouvoir aussi réussir à améliorer à la fois les patrouilles qui sont réalisées par nos agents et également d'améliorer le taux de respect du stationnement. Voilà, je laisse Raphaël vous donner un petit peu plus de détails sur la problématique.
Oui, donc en fait, notre objectif, l'objectif premier, ça va être donc de partir d'une zone globale sur laquelle on effectue donc la vérification des infractions au stationnement. De cette zone, elle est décomposée en secteurs élémentaires qui en fait sont des tronçons de voirie. Et l'idée, ça va être de les classer en fonction du taux d'infraction qui aura été prédit, ce qui nous permettra, en solution induite, d'optimiser le trajet des véhicules de stationnement pour qu'ils aillent en premier dans les zones sur lesquelles on aura prédit un taux d'infraction élevé. Et derrière, en objectif plus global, puisque là on parle vraiment d'infraction, mais il y a un objectif plus global qui est donc, comme le disait tout à l'heure Daniel, de réduire le taux d'infraction global et donc de permettre un respect généralisé des règles de stationnement. Et également, en deuxième objectif, de permettre aux collectivités d'avoir des financements, puisque c'est un financement qui leur revient directement maintenant avec les nouvelles législations, pour permettre de financer des infrastructures qui soient plus en phase avec les enjeux environnementaux ou sociétaux, donc de partage de la voirie par exemple, de réalisation de voies bus ou de pistes cyclables. Pour aller maintenant donc sur la data, la data initiale au départ, elle était constituée de relevés qui ont été faits en continu sur une période de 16 mois à peu près, et donc qui nous donnait à la fin un tableau d'à peu près 73 millions de lignes. Donc toute cette donnée, elle a été anonymisée pour la partie notamment géographique et date. Elle a été nettoyée, etc. On l'a également agrégée pour avoir des données qui soient plus facilement exploitables. Et au final, ça nous donne donc deux jeux, un jeu d'entraînement et un jeu de test qui sont respectivement de 6 millions et de 2 millions de données et qui correspondent à un an et à 4 mois en termes de durée. Donc les objectifs les plus... qu'on a noté qui sont les plus importants sur ce challenge, ça va être donc déjà de manipuler des jeux de données qui sont de taille importante, même si on les a réduites, comme je le disais juste avant. On a encore des données qui sont lourdes à gérer, donc l'usage des outils peut être assez pertinent. Il y aura une première phase qui sera donc de continuer l'exploration de la donnée et son analyse pour voir s'il peut être intéressant de faire des regroupements géographiques. Regarde également la distribution des comptages, puisqu'on a des données qui peuvent être assez dissemblables suivant les secteurs, voire éventuellement de filtrer en fonction du nombre de comptages totaux sur chaque sous-secteur pour avoir des modèles qui fonctionnent de manière plus optimale. Et derrière, une fois que toute cette partie exploratoire aura été réalisée, toute la partie choix des modèles et choix des features à utiliser qui permettra ensuite d'avoir donc un résultat qui soit le plus satisfaisant possible. Et ça nous amène donc à la métrique. Donc la métrique qu'on a choisie, puisqu'il s'agit d'une tâche de ranking en fait, c'est donc la corrélation de Spearman qui permet de calculer la différence de classement entre la prédiction et le réel, ce qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir ensuite l'utiliser pour optimiser les trajets et d'avoir également un résultat qui soit robuste par rapport aux valeurs aberrantes. En termes de benchmark, ce ne sera pas très difficile, je pense, de le dépasser assez rapidement. Aujourd'hui, on a un résultat de 0,02 à peu près, mais qui correspond au fait qu'on a filtré assez fortement le jeu d'entraînement. En fait, on a éliminé tous les sous-secteurs sur lesquels on avait moins de 45 comptages effectués. L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait avoir un premier résultat qui puisse tourner sur des processeurs qui soient de taille assez faible et que tout le monde puisse utiliser. Et en conclusion, je ne sais plus s'il y a une diapo derrière. Oui, en conclusion, l'idée, c'est que voilà, c'est un challenge qui est vraiment intéressant et qui permet non seulement de répondre aux besoins initials, donc de classer les zones par taux d'infraction, mais également de répondre à des enjeux de transport et d'aménagement urbain qui sont importants pour la partie environnementale. Si vous avez des questions, on est bien sûr à votre disposition.
Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Ah non.
Une dernière petite information. Du coup, dans le cadre de cette collaboration de Datacraft et Aegis, on organise un atelier de Datacraft sur ce sujet. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse ou qui participeront à ce sujet ou qui s'y intéressent de loin, on peut se donner rendez-vous le 13 mars. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre site web pour découvrir ensemble ce sujet. Donc ce sera à Paris, on crée un événement qui sera aussi potentiellement accessible, je pense, à distance. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour les autres challenges, donc le 22 janvier. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.